La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Dans le règne animal, ce sont des créatures dotées d'une intelligence exceptionnelle. Poulpes, sèches ou calmars, ces mollusques à tentacules appartiennent à la classe des céphalopodes. Et en mars dernier, l'Australien Peter Godfrey Smith publiait chez Flammarion Le Prince des Profondeurs, préfacé par Jean-Claude Amezen, qui est lui-même fasciné par l'intelligence de ces animaux. Jean-Claude Amezen vient nous présenter cet ouvrage dans un instant avec la biologiste Laure Bono-Ponticelli, qui est spécialiste des céphalopodes. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Agnès Sèvres, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, la découverte de la plus ancienne souche de peste.
Non seulement la plus ancienne, mais aussi la plus proche de l'origine génétique de la peste. Elle a 4900 ans, elle a été identifiée dans de l'ADN de pulpe dentaire d'une jeune femme en Suède. On plonge dans la longue épopée de Yersinia pestis, c'est le nom de cette bactérie, avec la microbiologiste Christelle Dénu.
Et c'est Fanny Boyon qui est aux commandes de l'émission, qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Anna Massardier.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'intelligence des céphalopodes, en particulier celle des poulpes, dossier dans un instant avec mes invités que je salue, la biologiste Laure Bono-Ponticelli et Jean-Claude Amezen. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Jean-Claude Amezen, vous avez consacré plusieurs émissions aux poulpes sur les épaules de Darwin, et c'est cette forme d'intelligence qui vous a fasciné aussi. Vous l'avez découverte en préparant les émissions.
Alors, ce qui m'avait fasciné au départ, l'intelligence, je l'ai découverte après, ce qui m'a fasciné, c'était une publication dans Current Biology à la fin décembre 2016, qui décrivait un tout petit poulpe dont le manteau à 6 cm de long, qui était à 4300 mètres de profondeur, et qui ressemblait à un petit fantôme blanc, et que les réseaux sociaux ont appelé Casper le poulpe. Et dans cet article, il décrivait deux mamans Casper le poulpe qui étaient accrochées à la tige d'une éponge morte et qui couvaient leurs œufs. Et il citait une publication que je suis allé voir, une publication de 2014 dans PLOS Biology, qui décrivait ce qui était à l'époque la plus longue couvaison par une maman poulpe qui durait 4 ans et demi, oui, pendant laquelle la maman ne se nourrissait pas et s'occupait de ses œufs. Et j'ai trouvé ce dévouement maternel tout à fait extraordinaire, et je me suis plongé dans les poulpes, voilà, et j'ai découvert leur intelligence, leur capacité mentale. Mais au début, c'est ce comportement maternel que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, ouais, et profondément émouvant.
Point de départ donc de cet intérêt pour ces animaux, Laure Bono-Ponticelli, c'est vous qui étudiez donc les céphalopodes. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre exactement chez ces créatures?
Alors moi je travaille justement sur les bébés sèches, donc c'est avant l'éclosion. Et ce que j'essaye de comprendre, c'est la manière dont ils se développent, hein, et en particulier les cascades génétiques, moléculaires, et puis comment le système nerveux, central, périphérique, la coquille, se mettent en place au cours du développement, pour en comprendre l'évolution, justement.
Ben vous allez nous expliquer tout ça, et puis l'objet de vos recherches et de vos découvertes, avec les messages, toutes les questions des auditeurs sur l'intelligence des céphalopodes, c'est sur franceinter.fr. Et à la une de la science cet après-midi, la découverte de la plus ancienne souche de peste chez une jeune femme en Suède.
Et si cette Suédoise était la première victime de la peste? Et s'il s'agissait même de la première pandémie de cette maladie dévastatrice, des milliers d'années avant celle qui a décimé au Moyen-Âge près de la moitié de la population en Europe? Cette découverte, en tout cas, n'a pas fini d'intriguer les chercheurs. On la doit à une équipe franco-suédo-danoise. Leurs résultats sont parus dans la revue scientifique Cell. Et on en parle avec Christelle Dénu depuis les studios de France Bleu Aix-en-Provence. Bonjour.
Bonjour Agnès.
Soyez la bienvenue. Vous êtes microbiologiste à l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection à Marseille. Et votre spécialité, Christelle Dénu, c'est les maladies infectieuses. Ça doit être pour vous une découverte incroyable d'identifier ce genre de souche de peste.
C'est une découverte incroyable, et ce qui est surtout incroyable, c'est de l'avoir retrouvée à cet endroit-là et à cette période-là. Donc ça a bousculé un petit peu les mécanismes qu'on avait sur les modèles qu'on avait de dispersion de peste. Le fait de retrouver cette souche de peste en Suède chez des individus qui sont décédés il y a environ 5000 ans.
Mais pour bien comprendre, donc c'est la plus ancienne qui ait été identifiée et c'est aussi la plus proche de l'origine génétique, c'est ça ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
C'est ça, c'est la plus ancienne, ça signifie qu'elle se situe à la base phylogénétique de l'arbre qui regroupe l'ensemble de ces souches de Yersinia pestis et elle se rapproche de la souche originelle de la peste.
Donc c'est l'ancêtre le plus lointain qu'on ait trouvé.
Qu'on ait trouvé à ce jour, oui.
Jusqu'à présent, on n'était pas remonté aussi loin ?
Non, la plus ancienne que l'on avait retrouvée jusqu'à présent datait de 4700 ans et elle avait été découverte en Russie.
Et alors, qu'est-ce que ça remet en cause de trouver une souche très ancienne de peste comme ça en Suède ? Ça fait sens, par exemple, avec la façon dont elle aurait pu se disperser au néolithique en Europe ?
Tout à fait. Donc, en fait, le fait d'avoir trouvé cette souche en Suède, et donc qui ne collait pas du tout avec les modèles de dispersion actuels de la peste, nous a fait aller étudier par des outils d'horloge moléculaire. Et nous avons pu voir qu'en fait, différentes lignées indépendante de peste avait émergé sur une période de temps relativement courte, entre 5700 et 5100 ans. Et ces différentes lignées ont émergé et rayonné sur toute l'Eurasie.
Alors, dans quelles conditions, Christelle Denu, est-ce que vous êtes tombée sur cette souche exactement ? Comment vous avez mené votre enquête, là, au départ ?
Alors, c'est grâce à l'idée relativement brillante d'un de mes post-doctorants, Nicolas Raskovan, qui a voulu aller analyser les données publiques de séquençage de génome humain, donc de la paléogénétique, à la recherche de pathogènes que ces personnes pouvaient transporter avec eux. Et donc, en fait, au sein des dents qui ont été analysées, il y a une trace, en fait, des pathogènes qui sont systémiques, c'est-à-dire qui se retrouvent dans la circulation sanguine, et cette trace perdure au fil des siècles.
L'autre élément important de cette publication, Christelle Denu, c'est d'isoler une période durant laquelle la peste aurait pu à la fois contaminer, diverger, se propager. Cette période, donc, vous la définissez entre moins 5000 et moins 6000. Qu'est-ce qui se passe exactement à cette période en Europe ?
Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que nous avons demandé de l'aide à des archéologues qui ont donc vraiment fait une recherche approfondie du registre archéologique, c'est qu'à cette période-là, il y a eu l'émergence de méga-colonies. Alors, on appelle ça aussi des agglomérations proto-urbaines, c'est vraiment les prémices de l'urbanisation. Donc, ce sont des gros regroupements humains de 10 000 à 20 000 personnes qui se sont développés dans la région actuelle de l'Ukraine, la Moldavie et la Roumanie. Et c'était des colonies qui étaient développées par la culture Tripilia. Et donc, en fait...
Ça veut dire quoi, pardon, la culture Tripilia ?
C'est une culture, en fait, de personnes de cette époque-là, qui se trouvaient justement dans cette région-là, de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Roumanie. Il y avait différentes cultures pendant le néolithique. Et donc, la culture Tripilia en est une. Et au sein de ces cultures, il y a eu également... pas simplement au sein de ces cultures, mais tout au cours de cette fin du néolithique et début de l'âge du bronze, une révolution technologique avec l'apparition de véhicules à roues, de la traction animale, de la métallurgie, de la poterie, qui fait que cette révolution technologique a permis les échanges commerciaux entre les différentes colonies. Et en fait, en analysant les données génétiques de centaines de personnes de régions et de périodes où la peste a émergé, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas des migrations qui pouvaient expliquer cette dispersion de la peste, mais plutôt, et nous avons émis cette hypothèse, des échanges commerciaux entre les différentes colonies qui existaient à cette époque-là.
Donc c'était la première fois que vous découvriez donc cette bactérie dans plusieurs endroits de l'Europe et la première fois que les conditions étaient réunies pour que la peste se propage, en fait, c'est ça ?
Tout à fait. Au sein de ces méga-colonies, il y avait toutes les conditions favorables. Ils entreposaient des denrées alimentaires, il y avait des élevages d'animaux, donc il y avait des contacts rapprochés avec les animaux. Et ce sont des conditions qui sont propices à l'émergence de maladies infectieuses.
Et à cette période, à la fin de cette période, à la fin du néolithique, on observe aussi un fort déclin des populations. Est-ce que du coup, vos découvertes peuvent venir remettre en cause, enfin expliquer en tout cas ce déclin des populations ?
Tout à fait. C'est une des hypothèses que nous avons donc émises à la suite de cette étude. C'est que c'est l'implication de la peste dans le déclin de ces populations du néolithique. C'est une des causes, ça pourrait être une des causes, c'est une hypothèse, avec d'autres qui pourraient être les conflits ou la raréfaction de la nourriture et la dégradation de l'environnement dans lequel ces populations se trouvaient. Mais ça pourrait être aussi une des causes, notamment par épidémie infectieuse.
Est-ce que ça a pu être aussi une façon de désorganiser ces méga-colonies humaines là, dont vous parliez tout à l'heure?
Tout à fait. Et ces méga-colonies humaines, on a remarqué qu'à la fin du néolithique, elles étaient régulièrement brûlées et reconstruites. Et puis vers moins 5400 ans, elles n'ont plus été reconstruites du tout. Il s'ensuit au début de l'âge du bronze, les grandes migrations pastorales de la steppe vers l'Europe qui ont bouleversé notre histoire génétique. Et donc, une des hypothèses, ça serait que ce déclin, en fait, de ces grandes colonies, elle laissait la place ouverte pour ces grandes migrations, ou alors que ces personnes dans la steppe eurasienne aient aussi subi des épidémies de peste.
Donc, la peste aurait pu jouer un rôle très important dans les migrations à l'époque.
Tout à fait. Et donc, c'est une question, si cela s'avère, si cela se révèle vrai, cela voudrait dire qu'un micro-organisme a pu bouleverser l'histoire humaine.
Merci beaucoup Christelle Denu donc pour toutes ces informations autour de cette souche ancienne de peste suédoise en l'occurrence. Merci pour vous, très joyeux Noël. Merci. Puisque nous sommes le 25 décembre et Agnès également.
Merci à vous aussi.
À très bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Your face.
In Your Face, c'était Cat Power.
La tête au carré.
Je vais pas perdre un autre tentacule pour toi.
Tu as perdu un tentacule? Alors, tu n'es plus un octopode, tu es un septopode.
Dépêche-toi!
Le saviez-vous? Les octopodes ont trois cœurs. Deux qui pompent le sang oxygéné par les branchies et un cœur principal qui irrigue le corps. Tu veux que je te dise, pour quelqu'un qui a trois cœurs, tu n'es pas très gentil.
Trois cœurs? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas trois cœurs.
Si, si.
Non.
Si.
Non.
Si!
Et nous allons trancher la question dans un instant grâce à nos invités pour parler de l'intelligence exceptionnelle des poulpes, dossier de l'émission, alors que sort chez Flammarion donc Le Prince des Profondeurs, un ouvrage traduit en français qui est signé de l'historien et philosophe australien Peter Godfrey Smith et Jean-Claude Amezen. Vous avez justement publié cet ouvrage. À vos côtés se trouve Laure Bono-Ponticelli. Vous êtes spécialiste des céphalopodes, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur au sein de ce laboratoire Boréa, biologie des organismes aquatiques, avec les auditeurs qui nous rejoignent et toutes les questions sur le site franceinter.fr. On va tout de suite répondre à une question de vocabulaire, parce que c'est la première qui est arrivée au standard avec cet auditeur, Jean, qui nous dit « La pieuvre est aussi le nom qu'on attribue aux poulpes ». Alors, la réponse à cette question, tout le monde est d'accord là-dessus,
hein? On l'attribue à partir de 1866, c'est-à-dire à partir des travailleurs de la mer. Mmh. Et à ce moment, le mot rentre dans le dictionnaire quelques années plus tard. Alors que c'est un mot, d'après Victor Hugo, qui était à Guernesey au moment où il écrivait, qui était utilisé sur la côte normande. C'est donc le poulpe. Et le poulpe, pour beaucoup de... Roger Caillois a écrit un très beau petit livre sur la pieuvre, logique de l'imaginaire, dans laquelle il montre comment, pour beaucoup de personnes, la pieuvre n'était pas simplement l'autre nom du poulpe, effrayant, le monstre, mais que c'était, il y avait l'idée que c'était un animal à part entière, qui avait le poulpe et qui avait la pieuvre. Et donc c'est ce versant, ce double versant de l'animal gentil, comme on vient de l'entendre, qui dans l'Antiquité était considéré comme intelligent, prudent, un modèle, et puis le monstre. Et puis les deux qui se rejoignent après avec les travailleurs de la mer, mais Jules Verne n'utilise pas le mot de pieuvre. Et donc cette double notion, le poulpe intelligent, facétieux, ou la pieuvre effrayante.
Oui, Laure Bono-Ponticelli, le calmar ou le calamar? Alors là aussi, on précise les choses.
C'est très très simple, hein. Le calamar c'est pour la paella.
Oui.
Et le calmar, c'est pour la science.
Voilà, donc on va parler du calmar.
C'est tout le problème des...
On aime les deux d'ailleurs, hein, mais bon.
C'est tout le problème des noms vernaculaires. Effectivement, les plongeurs ont pour beaucoup, beaucoup d'animaux aquatiques, des noms très spécifiques, simplifiés, que nous, scientifiques, on ne comprend pas toujours d'ailleurs.
Et puis, on entendait dans l'extrait du Monde de Dory, un tentacule. Et là aussi, c'est utile de se le rappeler quand même. Hein.
C'est surtout un bras. Chez la pieuvre, c'est pas des tentacules.
Exactement. Jean-Claude Amezen, ce livre donc de Peter Godfrey Smith, sorti il y a 2 ans en Australie, hein, qui vient d'être traduit donc en France, qui vous a beaucoup inspiré pour Les Épaules de Darwin.
Oui, j'ai commencé en lisant des études scientifiques, des articles, comme je vous le disais, et puis j'ai remarqué ce livre qui était sorti en 2016, et j'ai trouvé le livre exceptionnel, mais aussi son auteur, enfin son parcours, puisque je ne l'ai pas rencontré, exceptionnel. C'est un philosophe. C'est un plongeur. Et donc, il rencontre des poulpes, il les décrit, il les observe depuis longtemps. Et en même temps, ce qui, à mon sens, est tout à fait exceptionnel, c'est un philosophe plongeur qui publie des articles de biologie dans les plus grandes revues scientifiques et qui a donc publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, dans Cambridge Biology, non seulement la description de comportement chez les poulpes, mais en plus des questions théoriques qu'il a écrites parmi ses livres de philosophie des sciences, des livres sur Darwin. Et donc, il est co-auteur d'articles qui s'interrogent sur des questions profondes qui touche l'évolution du vivant. Donc, et on sent dans ce livre ces multiples regards, ces multiples approches, la réflexion du philosophe, la familiarité avec la science, et puis l'émerveillement du plongeur.
Et l'homme du terrain, c'est ça.
Qui dialogue avec les poulpes.
Exactement, et qui nous apprend qu'il existe par exemple des villes aussi, et ça on va l'évoquer avec vous, des villes de poulpes absolument extraordinaires au large de l'Australie. Laure Bono-Ponticelli, Peter Godfrey Smith, c'est un nom dans le milieu des céphalopodes qui est reconnu aujourd'hui?
C'est un nom qui est connu effectivement dans toutes les études comportementales. Mmh. Et dans le monde des comportementalistes céphalopodistes...
Oh, c'est
bien ça. Oui, il a vraiment il y a une reconnaissance envers cette personne. Le monde du comportement est en général, enfin chez les céphalopodes, est très relié au monde du comportement chez les mammifères et chez les vertébrés.
Ah oui, on peut vraiment faire des parallèles. Il y a beaucoup de points communs.
Disons qu'il y a un anthropocentrisme déviant parfois, qui fait qu'on essaye d'attribuer aux animaux des comportements que nous, on est capable de comprendre ou d'expliquer en tout cas. Mais c'est vrai que les céphalopodes se prêtent particulièrement à ça. Parce que à partir d'une évolution d'un système nerveux qui est complètement différent, un animal mou, absolument informe, qui n'a pas de système vertébral, qui est sous la mer, qui ne parle pas, il arrive à ouvrir un bocal. C'est-à-dire que c'est une action que nous, on sait faire avec nos mains. Et ces bêtes le font à partir d'un cerveau dérivé avec des tas de bras différents. C'est très, très, très intriguant. Donc on est obligé de faire des parallèles.
On va écouter justement une expérience qui a été menée en Espagne en 2010 autour justement de l'ouverture du bocal.
À l'aquarium de la Corogne en Espagne, les chercheurs font subir aux pieuvres des expériences insolites pour mesurer leur véritable degré d'intelligence. Une pieuvre est introduite dans une boîte fermée reliée à un long tube. L'animal ne peut pas savoir ce qu'il attend à l'autre bout. Il se lance pourtant dans l'aventure, conscient que la solution pour s'échapper se trouve peut-être plus loin. Il parvient à se projeter dans l'avenir. À chaque virage, la pieuvre utilise le bout de ses tentacules pour explorer la suite. Au bout de 4 minutes, elle parvient enfin à s'extirper de la boîte. Remise à nouveau dans la même situation, elle se lance sans aucune hésitation et parcourt le tube en quelques secondes. Elle sait que la sortie se trouve au bout du labyrinthe. Elle a appris et mémorisé.
Voilà, Jean-Claude Amezen, ça fait partie des expériences qui ont beaucoup marqué le public aussi. C'est la capacité du poulpe à pouvoir ouvrir un bocal, qu'il soit d'ailleurs à l'extérieur ou à l'intérieur même du bocal, ce qui est quand même assez exceptionnel.
Résoudre ce qu'on a entendu, à résoudre des problèmes et à apprendre à les résoudre plus vite, ce qui est l'apprentissage et la mémoire. Alors c'est intéressant ce que vous disiez en fait. On est à la fois tenté, mais comme pour tous les animaux, de projeter sur eux ce qu'on est capable de comprendre et de ressentir. Et d'un autre côté, ce qui est très beau, je trouve, dans le livre de Peter Godfrey Smith, c'est qu'il y a à la fois cette empathie et en même temps, il insiste toujours sur le fait que c'est un monde étranger. C'est un monde qui est peut-être le plus étranger qui nous soit. Ces deux activités mentales, deux mondes intérieurs, qui s'étant séparés, dont les derniers ancêtres communs se sont séparés il y a plus de 600 millions d'années, d'un seul coup se retrouvent face à face et trouvent des ressemblances et en même temps de très grandes différences. Donc c'est à la fois une familiarité, ils font des choses comme nous qui nous ressemblent, et puis un mystère profond.
Alors justement, Laure Bonneau pour Ticelli, il y a Paul sur franceinter.fr qui demande quels sont les critères qui déterminent l'intelligence des céphalopodes et est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ce terme d'intelligence, puisqu'on parlait d'anthropocentrisme tout à l'heure, quand on est biologiste marin justement sur ces questions, on admet ce type de vocabulaire ou pas?
Certains oui, moi j'ai un peu de mal parce que déjà chez les humains, la notion d'intelligence, j'ai un petit peu de mal à la définir, donc j'ai du mal à l'appliquer à mes animaux. Je dis mes animaux.
Oui.
Et quand je dis pas à moi, c'est-à-dire je suis une sèche. Non, la notion, en tout cas, le concept que moi je préfère utiliser, c'est le concept de capacité cognitive, de capacité de mémorisation, de capacité d'apprentissage.
On parle de la même chose quand même.
Non, parce qu'en fait, ce que nous on met derrière intelligence, c'est pas nécessairement uniquement les capacités d'apprentissage ou les capacités cognitives.
C'est très multiple, oui.
Voilà, c'est très multiple. Il y a plein de facteurs qu'on est incapable d'appliquer aux pieuvres de toute façon. Voilà, il y a des intelligences, techniques, pratiques, sensorielles. Bon, voilà. Donc, moi, je dirais pas que ce sont des animaux intelligents, mais en revanche, c'est vrai que ce qu'ils montrent, comme on l'a entendu dans cet extrait, qui montre des capacités d'apprentissage, mais il y a d'autres expériences qui montrent des capacités d'apprentissage par la vue et non pas seulement par l'expérience, puisque ça, c'est des capacités d'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire, je fais la manip une fois, je me plante, je la fais une deuxième fois, je réussis, je fais plus vite. Or, il y a des poulpes qui sont capables de faire directement le chemin le plus court, rien qu'en regardant leur congénère le faire.
Avec leurs yeux.
Avec leurs yeux.
Qui se trouvent où alors?
Alors, ils ont des yeux. Alors, il faut savoir que chez céphalopodes, il faut faire très attention quand on représente les bras et puis cette énorme boule au-dessus. La boule, c'est pas la tête. La boule, c'est le corps. En fait, donc le cerveau se trouve entre les deux yeux, qui se trouvent entre les bras et le reste du corps.
Donc dans les tentacules ?
Et donc les cerveaux... Mais alors là, je vous vois venir. Le céphalopode a-t-il 9 cerveaux ?
Oui, madame, il a... absolument.
Il a un gros cerveau entre les deux yeux, enfin un gros cerveau relativement. Il a des énormes lobes optiques. Et en fait, c'est ces lobes optiques qui vont transmettre l'information des yeux jusqu'au cerveau. Et à partir de là, on a une descente de l'information vers le reste. Vers le reste, c'est quoi ? C'est entre autres vers les bras. Les bras, c'est 90% du système nerveux périphérique. Et on a, au niveau de chaque base de bras, des espèces d'amas de cellules nerveuses, comme des mini-centrales nerveuses. Mmh. Et comme il y a 8 bras, on dit qu'il y a 8 autres petits cerveaux connexes.
C'est ça.
Ce qui n'est pas totalement faux, puisqu'il a été montré qu'ils avaient la capacité de faire des mouvements avec leurs bras de manière un petit peu déconnectée du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait 2 centrales. Une centrale d'ajustement, une centrale principale qui parfois se repose.
Mais c'est étonnant parce que vous voyez ce que vous nous dites, la tête, c'est pas finalement cette partie qu'on se représente, nous, instinctivement, comme étant une tête, parce que ça ressemble à ce qu'on connaît, nous, humains. Hein. Mais voilà. C'est pas ça du tout, donc c'est pas la bonne interprétation.
Je vous fais pas la sèche, mais je pourrais. Là.
C'est vrai, faites-nous la sèche, mais si, j'aime bien. Voilà, alors elle se lève, voilà, elle se met... alors, faudrait que vous regardiez la vidéo en même temps. On pourra même pas, parce qu'elle était sous la table, voilà, c'est ça. Bon, allez, c'était un petit moment privé, mais en tout cas, on va y revenir dans un instant. Tu sais, je ne sais plus à l'instant.
C'est peut-être un calmar géant.
Non, une pieuvre.
La tête au carré.
Avec le monde de céphalopodes, Jean-Claude Amezen et Laure Bonneau-Ponticelli, à l'occasion de la sortie en France donc de ce livre, Le Prince des Profondeurs, signé Peter Godfrey Smith chez Flammarion. Alors, Le Prince des Profondeurs, le titre est très très bon, évidemment, parce qu'il y a un lien direct avec la biologie de l'animal, Jean-Claude Amezen. On est vraiment dans le sang bleu, là. Hein,
le sang bleu, oui. Mmh. Une des particularités, à la place de l'hémoglobine, qui contient du fer et qui colore le sang en rouge, c'est de l'hémocyanine qui contient du cuivre et qui donc, lorsqu'il s'oxygène, devient bleu. Mais ça n'est sans doute pas la caractéristique la plus remarquable ou la plus spectaculaire de ce monde.
Oui, absolument.
Ce qui est d'ailleurs, puisque vous parlez de couleurs, moi ce que je trouvais fascinant et ce qui est amplement développé dans le livre de Godfrey Smith, c'est l'émergence des couleurs, le camouflage, ces couleurs extraordinaires qui surgissent sur le corps de ces céphalopodes.
Darwin s'était intéressé déjà à cette question.
Alors Darwin même naïvement les avait rencontrés à la troisième semaine de son grand voyage autour du monde, hein, quand il arrive aux îles du Cap-Vert, et il s'aperçoit qu'il y a des capacités de camouflage extraordinaires. Il dit qu'au début il les voit disparaître, il sait pas où, il y a une sèche, il sait pas où elle est, et puis il la découvre parce qu'elle lui envoie un jet d'eau par son siphon. Et puis il écrit quelques mois plus tard à son professeur qui lui a permis d'embarquer sur le Beagle, et lui dit: j'ai découvert qu'elles ont des capacités de camouflage extraordinaires en changeant de couleur. Il les décrit, et je crois que c'est nouveau, ce qui est d'une naïveté extraordinaire, parce que depuis l'Antiquité, depuis Aristote et les autres, ça a été décrit, redécrit, mais lui ne le sait pas.
C'est ça.
Et donc il est émerveillé. Et donc dans son...
Mais il n'y avait pas Internet pour se renseigner,
alors,
justement.
On voit qu'il l'a appris, parce que lorsqu'il publie le livre, ça c'est ses carnets et ses lettres, lorsqu'il publie le livre qui rend compte du voyage du Beagle, il n'y a plus c'est nouveau. Décrit, mais...
Il avait réactualisé ses connaissances. Laure Bonneau-Ponticelli, alors justement d'un point de vue biologique, comment ça fonctionne, ça, cet aspect camouflage et ces couleurs autour des céphalopodes? C'est assez fulgurant, hein, quand même,
alors,
comme
c'est,
processus.
C'est,
hein.
C'est très très fulgurant, c'est-à-dire que le changement de couleur, c'est un millième de seconde. Donc, lorsqu'on nous fait tout un foin avec le caméléon qui change de couleur, vous m'excuserez, mais bon, et pourtant ce sont des vertébrés, les céphalopodes sont vraiment les rois, les empereurs du camouflage. Je crois que
donc c'est la fonction première de ces changements de couleur rapides.
Alors en fait, c'est la fonction première, c'est-à-dire que ça a probablement été sélectionné au cours de l'évolution du fait de la perte de la coquille. Hein. Donc il y a un moment pour échapper aux prédateurs, il y a des mutations qui sont favorisées, en particulier celles d'avoir des cellules particulières qui permettent de se camoufler.
Ouais.
Donc il y a plusieurs types de cellules, hein. Il y a des grosses cellules qu'on appelle des chromatophores, mais la grande différence avec ce qu'on observe dans d'autres groupes, en particulier les vertébrés, c'est que les chromatophores des céphalopodes sont contrôlés directement par le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un axone, donc une fibre nerveuse, hein, qui part du cerveau et qui va directement au chromatophore. C'est la raison pour laquelle les changements sont si rapides, puisqu'il y a une impulsion nerveuse, un signal, ou danger, schlung, c'est la vitesse de l'influx nerveux pour faire changer le chromatophore qui est plein de pigments et qui va du coup s'étirer ou se resserrer en fonction des nécessités. Il y a d'autres types de cellules en dessous qui sont des cellules qui vont donner des couleurs qu'on dit physiques, qui sont dues par exemple à un empilement de petites plaquettes. Ça existe dans tout le monde animal, hein, cet empilement de petites plaquettes qui fait réfléchir, absorber, réfracter des rayons lumineux et qui vont donner de l'iridescence. Donc en fait, les céphalopodes, c'est non seulement des pigments qui vont de jaune à noir, mais aussi de l'iridescence. C'est pour ça qu'on peut avoir cette variété de couleurs. Mmh. L'iridescence, c'est beaucoup de jaune, de vert, de bleu, parfois un petit peu de rose. Et du coup, ils arrivent à avoir des motifs, mais absolument incroyables, des vagues qui se mettent en place. Et le second rôle... qui relève aussi de la communication, mais qui est peut-être de la communication entre congénères. C'est-à-dire que, comme ils sont capables aussi de produire et de voir de la lumière polarisée, les abeilles hein, aussi sont capables de faire ça, eh bien, il est possible qu'il y ait des signaux à la fois colorés et de lumière polarisée qui s'envoient les uns aux autres. Alors les sèches, on a vu qu'il y avait des bras qui ont des positions particulières et qui pourraient donner des informations du type de la communication. C'est J'essaye de pas trop aller dans le sens de l'anthropocentrisme, mais en même temps, n'est-ce pas une forme de langage?
Alors j'entends de mes amis, c'est ça quand même.
C'est une forme de langage qui a été décrite récemment chez les chimpanzés. Hein, 35 signes différents, 35 gestes différents chez lesquels les chercheurs ont pu trouver des significations. Donc il y a sûrement énormément... Darwin disait qu'il y a énormément de langage, hein, de la danse des abeilles aux gestes, aux odeurs, aux couleurs. C'est aussi utilisé dans la séduction. Et il y avait une publication que j'avais trouvée extraordinaire où les sèches, les messieurs sèches en train de séduire des dames. Donc la dame est camouflée, on la voit à peine. Il y a des couleurs extraordinaires qui se propagent sur le manteau du monsieur, mais seulement du côté de la dame. Et donc, si un autre monsieur passe, il ne voit pas que son congénère est en train de séduire la dame. Et donc, et il semble, en tout cas, c'est ce que les chercheurs montraient, que lorsque, ce qui se passe dans 30% des cas, le congénère s'aperçoit que la face qui lui est présentée est tout à fait neutre, mais qu'il y a de la séduction de l'autre côté, il attaque férocement celui qui s'est masqué. Donc, il y a un jeu de communication qui est tout à fait extraordinaire. Alors Darwin parlait des nuages qui courent, qui changent. Gottfried Smith utilise à un certain moment des noms de peintres et il dit qu'il a rencontré des animaux qui le faisaient penser à un Matisse, à un Kandinsky. Et il y a quelque chose qui est vraiment très beau. Il y a une communication, c'était d'ailleurs l'objet d'une de ses publications scientifiques, des communications lors de rencontres entre poulpes dans des lieux où ils socialisent, ou lorsque le poulpe prend une couleur sombre, ça signifie qu'il va attaquer. Si l'autre prend une couleur pâle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat, il lui cède la place. Si les deux prennent la même couleur sombre, il va y avoir un combat. Donc il y a toutes sortes
de
communications.
C'est ultra sophistiqué quand même déjà là. Hein, on est à un degré de sophistication, enfin il y a quand même des choses qui se disent quoi.
C'est-à-dire qu'on n'est pas on est habitué à beaucoup de formes de langage et de modes de communication, peut-être pas tellement à des modes de communication qui sont fondés sur des changements de couleurs extrêmement rapides. Et c'est ça qui est surprenant, qui a une dimension émouvante et artistique. Et donc on est à la fois en train d'essayer de comprendre, parce que c'est mystérieux et passionnant, et en même temps d'admirer.
Est-ce qu'il peut y avoir un langage oral aussi chez ces animaux, leur Bono Botticelli, ou pas du tout?
À ma connaissance, on ne sait pas.
On ne sait pas pour l'instant.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas si un langage oral ou un langage de type onde magnétique, ça c'est quelque chose qui nous échappe complètement.
Ouais. Vous parliez de la perte de la coquille aussi tout à l'heure. C'est le cas chez tous les céphalopodes ou certains en possèdent quand même un petit bout, non? Les nautiles,
Les nautiles sont les seuls à avoir encore une coquille externe qui est cloisonnée.
Donc c'est l'héritage de cette très très longue évolution.
Oui, mais le nautile, il est quand même très 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 éloigné des céphalopodes actuels, et les plus proches des céphalopodes actuels, donc sèche, calmar, et puis poulpe, qui ont perdu secondairement leur coquille, ou en tout cas internalisé, c'est les ammonites. Vous savez, les ammonites, c'est ce qu'on voit en général dans les tables en marbre, dont tout le monde pense que c'est des escargots, c'est pas des escargots du tout. Et les céphalopodes actuels, les poulpes n'ont plus du tout de coquille, les calmars ont encore ce qu'on appelle une plume, ce qui est très joli, mais qui n'est pas minéralisée, et les sèches ont encore une coquille interne.
Le fameux os de sèche, c'est ça.
Voilà, qui sert de nourriture pour les œufs de nos canaris, de Frédéric Giguet, qu'on a vu tout à l'heure.
Absolument, oui.
Voilà, et c'est une coquille cloisonnée, qui sert à la flottabilité aussi.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission autour du prince des profondeurs, le poulpe.
C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Fêter Noël en smoking de velours vert, en col roulé blanc. Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longea la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine, ce vendredi-là, c'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant, à pied le long de la Seine, marchant d'un pas lent, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
Barbara, c'était Joyeux Noël, évidemment, et également à vous tous.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, ce livre, Le Prince des Profondeurs, donc chez Flammarion, préface de Jean-Claude Amezen, notre invité avec la biologiste Laure Bonneau-Ponticelli, pour parler donc du monde extraordinaire et fascinant des céphalopodes avec les questions des auditeurs. On a ce message qui nous arrive de Patrice. N'est-il pas nécessaire de rappeler que les poulpes, les céphalopodes et bien d'autres invertébrés ressentent la douleur et que les vertébrés ne sont pas les seuls animaux pouvant souffrir comme le prétendent malheureusement certains scientifiques. Laure Bonneau-Ponticelli, c'est vrai qu'elle est reconnue, hein, la douleur de ces animaux.
Alors, elle a été reconnue parce qu'ils ont des capacités cognitives et qu'on suppose qu'il y a effectivement des récepteurs de la douleur qui doivent être associés. Pour l'instant, du point de vue moléculaire, on n'a pas identifié de récepteurs de la douleur. Sauf que, effectivement, les céphalopodes ont des manifestations de stress très importantes. Ils sont capables de mourir de stress et que les manifestations de contraction du manteau, d'expulsion de l'encre, d'agitation des yeux, des bras, etc. sont de manière évidente des manifestations de ce que nous on interprète comme douleur, mais certainement oui. Ils ont d'ailleurs été classés avec les vertébrés dans la législation sur l'expérimentation animale.
Et absolument. C'est pas pour rien. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait le préciser. Ophélie nous dit
c'est traduit, c'est ce qui est à la fois impossible à partager, mais dont on peut détecter des signes extérieurs, qui est l'existence d'une conscience, d'un univers mental, d'une subjectivité. Et donc, la question après, c'est comment est-ce qu'on voit le monde quand on est un poulpe ou une sèche? Donc, il y a cette subjectivité, la douleur, le fait de résoudre des problèmes, le fait d'apprendre. Mais il y a un mystère dans en quoi cette subjectivité peut-elle être proche ou au contraire extrêmement différente de la nôtre.
Et au fond, le travail du biologiste, c'est de toujours tenter de se mettre à la hauteur de l'animal, hein, de se mettre quasiment dans sa peau pour comprendre mieux les choses, plutôt qu'à hauteur d'homme.
Oui, on essaye, en tout cas, nous, au laboratoire, on essaye de se mettre à la hauteur de notre petit céphalopode, ce qui est parfois très difficile quand on les met dans un liquide qui leur plaît pas forcément, nos bébés sèches. On souffre quand on les enlève de l'œil, parce qu'on se met à leur place aussi, mais on essaye de pas faire d'anthropocentrisme, encore une fois.
Ophélie nous dit, j'ai entendu dire que les poulpes ont certes des capacités impressionnantes, cognitives, mais qu'ils ne transmettent pas leur apprentissage à leurs congénères. Ainsi peut-on dire que le monde des poulpes ne progresse pas. C'est pas vrai ça, Jean-Claude Amezen, il y a une transmission des connaissances, non?
Alors il faut demander alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en tout cas chez certains poulpes et chez certaines sèches, je sais pas jusqu'à quel point c'est général, les petits naissent en l'absence des parents, soit parce que les parents sont morts, comme chez certains poulpes, soit parce que la mère est partie et que le père n'est plus là. Et que donc l'apprentissage se fait par l'individu lui-même et par ce qu'il peut observer de ses congénères, sans que ça soit forcément les parents. Mais c'est quelque chose qui est assez différent de ce qui existe dans beaucoup de règnes animaux. Il y avait une chose qui m'avait fasciné, qui était un travail français, dans lequel on voyait, vous savez, c'est comme l'empreinte des oies, les oies de Lorenz, qui s'attachent au premier être qu'ils voient après être né. Que des sèches, 3 semaines avant leur éclosion, qui sont à l'intérieur de leur œuf transparent, sont capables de voir l'extérieur, et que cet extérieur va entraîner une empreinte en termes de nourriture, et que donc il y a un apprentissage avant même la naissance. Et donc il y a différentes formes d'apprentissage, même s'il ne se fait pas de parent à enfant.
Oui. Est-ce qu'ils voient la couleur, alors, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est quand même une question intéressante, c'est celle que nous pose Gérard. Alors, est-ce qu'il y a des yeux pour voir vraiment la couleur ou pas?
Des expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant, avec les moyens qu'on a, il semblerait que les céphalopodes ne voient pas les couleurs. Alors qu'ils sont capables, en plus, de faire des motifs absolument extraordinaires. Et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'ils ne peuvent pas se retourner pour voir si leur motif correspond à ce qu'il y a sous eux.
Ouais.
Donc, ce qu'on sait, c'est que ils sont extrêmement sensibles au contraste, à l'intensité, à la lumière polarisée, qu'ils sont capables de produire aussi. Donc il y a une coévolution entre la production et la vision de la lumière polarisée, et que tout ça leur permet de mettre des motifs particuliers au niveau de leur manteau. En fait, à l'éclosion, alors je voudrais quand même mentionner Enlon, qui est Roger Enlon, qui est un magnifique comportementaliste céphalopodiste et qui fait des études extraordinaires, justement, d'études comportementales et qui lui a beaucoup étudié les céphalopodes. Et il a montré qu'il y avait un certain nombre de motifs qui étaient présents à la naissance, donc comme une espèce de programmation, et qu'il y avait par la suite une augmentation du nombre de motifs, un affinage de certains motifs, avec évidemment la croissance, le développement de toutes les cellules dont j'ai parlé tout à l'heure.
Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, je trouve, c'est que, au fond, il serait achromatopsique, c'est-à-dire qu'il verrait, il ne verrait pas les couleurs. Et donc, imaginez représenter des couleurs qu'on ne voit pas. Imaginons un peintre qui ne voit que des nuances de gris. Ça permet de voir beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y a 2 types d'études que je connais. L'une que mentionne Godfrey Smith et l'autre qui a été publiée après son livre, qui suggère des possibilités par lesquelles, n'ayant qu'un seul type de photorécepteur, nous en avons 3, ce qui permet de distinguer les différentes longueurs d'onde, il serait capable de distinguer les couleurs. L'un est un modèle où les chromatophores, les cellules qui contiennent des pigments sur la peau, agiraient comme des filtres photographiques au-dessus de photorécepteurs. Et l'autre est lié à la forme un peu particulière de leur pupille, et en particulier chez les calmars et les sèches, en W, en U, qui permettrait une aberration chromatique, c'est-à-dire une dispersion par le cristallin des longueurs d'onde, et avec des mouvements des yeux, comme un focus, comme un objectif qui se déplace, de mettre au point et de détecter les couleurs. Donc apparemment, ils ne verraient pas les couleurs, mais il y a des expériences qui suggèrent que ça n'est pas impossible qu'ils voient des couleurs.
Allez, un extrait de 20 000 lieues sous les mers, version 1955, Le Petit Ménestrel et Walt Disney, avec, attention, Jean Gabin dans le rôle du capitaine Nemo.
N'est-ce pas là un beau spécimen de céphalopode?
Une pieuvre!
Non, 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 mon ami. C'est un calmar et de belle taille. Ses tentacules mesurent au moins 6 mètres. Quel animal redoutable!
L'épouvantable bête! Et ce bec formidable! C'est pas une pieuvre ordinaire, on dirait un gigantesque perroquet.
Ouvrez les panneaux!
Attention, capitaine! Attention, la pieuvre! Trop tard! Le voici enlacé, arraché du sol par les tentacules du calmar géant. Les matelots se précipitent sur la bête. Des coups de hache tranchent les bras du monstre qui glisse à la mer comme des serpents morts. Ned Land, le harpon à la main, se précipite. Son arme disparaît dans le corps visqueux du poulpe qui laisse échapper sa proie.
Voilà, on a tout juste entendu la voix du capitaine Jean Gabin dans cet extrait. Une dernière question avant de se quitter dans quelques minutes, Laure Bonneau Ponticelli, parce qu'on parle quand même de ce système nerveux extrêmement vaste, de ses cerveaux, de ses yeux, de ses bras, ses tentacules. Et pourtant tout ça pour un animal qui vit combien de temps en moyenne?
Eh bien, c'est dramatique. C'est maximum 3 ans.
C'est
puisque,
fou, ouais.
Voilà. Alors, 3 ans chez les poulpes, sèche-calmar, le nautile ouais. vivrait plus longtemps. Et en fait, ces animaux n'ont qu'une saison de reproduction. C'est-à-dire qu'ils grandissent, ils éclosent, ils grandissent, ils croissent. Mmh. Alors, ils mettent 1 ou 2 ans à grossir. Ils deviennent matures, ils se reproduisent et ils meurent. Donc en fait, l'histoire de...
Alors qu'ils sont merveilleusement équipés, hein, on se dit, mais c'est incroyable.
Oui, mais si on regarde, nous sommes merveilleusement équipés. Oui. Nous sommes merveilleusement équipés, ou en tout cas nous le pensons.
Ça dit quoi de l'évolution,
par rapport,
ça
par rapport à la durée de vie d'un séquoia, notre durée de vie est ridiculement réduite. Mmh. Donc on pourrait dire un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours cette comparaison, c'est comme si notre durée de vie était le standard, et que ça dit au fond que l'évolution procède de manière aveugle, et que ce qui émerge, aussi extraordinaire que ce soit, j'allais dire, n'a pas été fait dans un but précis. Et donc les capacités extraordinaires des poulpes n'ont pas évolué en même temps qu'une durée de vie longue. Il y a des êtres vivants qui vivent très longtemps, dont les capacités ne nous émerveillent pas forcément. Il y en a d'autres. Et donc c'est cette diversité extraordinaire, ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, qui, je crois, est la leçon de l'évolution, et non pas ce finalisme qu'on y cherche toujours.
Hein. C'est ça. Mais ça nous choque, c'est contre-intuitif quasiment pour nous. Hein.
Oui, mais c'est le cas pour nous, parce que si le souhait de prolonger la vie ou le rêve d'immortalité hante l'humanité depuis ses débuts, c'est qu'elle a bien considéré aussi que la durée de vie qui lui est échue n'est pas celle qu'elle souhaiterait.
Vous saluerez vos amis les souches, leur bono pontuti, les sèches, pardon, pas les souches. Hein, c'est...
Je suis outré.
Ah ouais, alors ça, vraiment, c'est se ramasser pour faire une conclusion. C'est lamentable.
Je vous remercie.
Bon, en tout cas, en attendant, au lit de prince des profondeurs, bonjour à vos sèches. Et vous reviendrez dans l'émission, c'est promis. Merci Jean-Claude Amezen. Ce livre paraît aux éditions Flammarion.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Dominique, bonjour.
Bonjour Mathieu.
En ce jour de Noël, vous avez décidé de nous parler chocolat.
Ah
quelle
oui,
bonne idée.
Ouais, c'est une chronique très contextuelle hein, pendant la trêve des confiseurs, mais elle est justifiée par les âneries que l'on peut régulièrement lire ou entendre à propos du chocolat.
Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, ça nous intéresse.
Je dirais plutôt qu'est-ce qui est sûr et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, commençons par ce qui est sûr et plutôt positif. Le chocolat fond à la température de la bouche et libère alors des arômes très agréables. C'est une des confiseries les plus universellement appréciées. Donc, déjà, quand on aime le chocolat, il nous apporte un plaisir gustatif. Par ailleurs, le chocolat contient des substances psychoactives essentiellement stimulantes, et comme le café, le thé, l'alcool, le cannabis ou d'autres extraits végétaux psychoactifs, ils provoquent des sensations agréables chez de nombreux humains au point de causer de véritables addictions.
Ah oui.
Mais oui, néanmoins, l'impact de ces substances peut être très différent hein, d'une personne à l'autre, comme c'est le cas pour presque tous les psychotropes, les produits qui agissent sur le cerveau. Bref, ce n'est pas pour rien qu'on en offre et qu'on en consomme en cette période de l'année où les journées courtes et le froid intense menace notre élan vital. Alors, côté défaut, le chocolat, c'est du gras sucré. Hein, et donc, consommé en quantité, c'est plutôt de la malbouffe. Mais quelques carrés quotidiens ne peuvent prêter à conséquence chez les bien portants. Et je termine en rappelant qu'il faut se laver les dents après en avoir consommé pour prévenir les caries. Il ne faut jamais donner de chocolat à un enfant le soir au coucher. Et voilà. Pour ce qui est sûr, on s'arrête là.
Bon, c'est déjà pas si mal. Hein.
Ouais. Et on pourrait se demander pourquoi aller plus loin d'ailleurs. Hein. Mais les objectifs économiques des chocolatiers et la recherche de sujets porteurs par les médias se conjuguent pour alimenter le rêve chocolaté. Et tous les autres composants du cacao sont alors passés en revue et parés de vertus thérapeutiques qui ne sont pas démontrées ou qui sont peu compatibles avec leur présence en quantité infime dans le chocolat. Enfin, de nombreuses stats à la con, c'est-à-dire des études biaisées donc peu fiables, parlent le chocolat de vertus protectrices qui sur le cœur, le cerveau ou les artères. Alors, la plus belle de ces stats à la con, ma préférée, a été publiée volontairement par Franz Messerli dans le célèbre New England Journal of Medicine. Ce médecin réputé pour sa rigueur, mais aussi pour son humour, il constatait la forte corrélation statistique entre la consommation nationale de chocolat dans différents pays et le nombre de prix Nobel obtenus par ces mêmes pays. Malgré de nombreux indices présents dans chaque paragraphe de ce canular haut de gamme, sa conclusion a été prise au premier degré par de nombreux journalistes grand public. Eh bien non, c'était une blague, le chocolat ne rend pas intelligent.
C'était même en 2012, puisqu'on en a parlé plusieurs fois ici.
J'adore cet article. Donc, en résumé, le chocolat, on peut en manger par plaisir gustatif ou pour rechercher des effets psychiques agréables, mais consommer en excès, c'est de la junk food. Et le reste, soit c'est faux, soit c'est douteux, soit on s'en fout.
Et surtout le jour de Noël. Et on en profite pour vous en souhaiter un très bon.
Absolument, vous aussi.
À la semaine prochaine, Dominique. Merci. C'est terminé pour cette tête au carré de Noël. Passez une très bonne journée. Demain à 14h, c'est Daniel Fievé qui sera aux commandes de la tête au carré. Mais dans un instant, bien sûr, Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bon Noël à toutes et à tous. À bientôt.